Bonjour à tous, l'Instant M, l'émission qui vous explique comment ça marche les médias. C'est parti.
C'est ça quand on est en direct.
Un Instant M ce matin avec un M comme merveille, miracle, devinez un peu qui vient nous rendre visite ce mercredi, jour des enfants en pleine période de vacances scolaires. Une idole, un garçon qui a rendu accessible ce qui ne l'était pas, un homme qui nous a fait comprendre ce que même les profs de sciences physiques et de sciences nat peinaient parfois à nous expliquer. Bref, un journaliste qui a vulgarisé joyeusement pendant plus de 10 ans dans un programme devenu culte et qui s'appelait C'est pas sorcier. Bonjour à vous, Jamy.
Bonjour Bruno.
Jamy Gourmaud, vous proposez ce soir sur France 3 un documentaire consacré à l'intelligence des animaux. On en parle dans un instant, juste après Romain Nigita. Bonjour Romain.
Bonjour Bruno.
Romain qui va causer série, ou plus précisément, envers du décor.
L'Instant M. Tous les médias sont sur France Inter, avec Bruno Donnet.
Alors, Romain Nigita, ce matin, vous nous proposez de découvrir les coulisses d'Hollywood au travers de productions, allez, comment dire, assez protéiformes.
Alors je suis certain que vous aurez reconnu le générique de Beverly Hills. Souvenez-vous, les aventures de Brandon et Brenda dans un lycée UP de Los Angeles. Alors qu'on le veuille ou non, c'est l'une des séries emblématiques du début des années 90. Eh bien, figurez-vous que ce vendredi à 13h50, TF1 va diffuser le téléfilm Les Dessous de Beverly Hills. On pourrait presque appeler ça un biopic, puisque des acteurs incarnent les différents comédiens de la série, Shannon Doherty, Jason Priestley, Luke Perry et consorts. Et ce téléfilm montre parfaitement comment cette série a véritablement innové, puisqu'en devenant aux États-Unis la première série de prime time destiné aux ados. On redécouvre aussi pourquoi la série a véritablement décollé au milieu de sa première saison. On est en février 1991, c'est le début de la guerre du Golfe, et alors que toutes les autres chaînes américaines passent en breaking news, la toute jeune chaîne Fox n'a alors aucun département info, et c'est la seule à continuer à diffuser des séries. C'est un vrai morceau d'histoire de la télé, donc.
Alors, vous nous dites aussi, Romain, que le gros morceau passera sur TF1 juste après cette mise en bouche.
À une, double la mise et diffuse toujours vendredi après-midi Les Dessous de Melrose Place. Idée de génie puisque Melrose Place avait été lancée comme une série dérivée de Beverly Hills, mais elle a très vite supplanté son aîné, surtout avec l'arrivée dans la saison 2 de Heather Locklear dans le rôle de la méchante Amanda. Alors ce second téléfilm illustre brillamment comment les scénaristes se sont littéralement lâchés pour créer des rebondissements toujours plus insensés, amnésie, explosion, kidnapping et même une histoire de secte. C'est donc un véritable diptyque que nous propose TF1, totalement légitime, puisque dans les deux téléfilms, les mêmes acteurs incarnent les personnages clés de ces coulisses. Darren Star, le créateur des deux séries, celui qui lancera plus tard Sex and the City, et Aaron Spelling, le producteur incontournable des années 70 et 80, déjà à l'origine des Drôles de Dames et de La Croisière s'amuse.
On s'en souvient, alors qui est à ce point audacieux pour oser produire de pareils téléfilms romains?
Alors le coupable, c'est Lifetime, une chaîne du câble américain d'habitude spécialisée dans les téléfilms sirupeux. Elle s'est aussi faite une spécialité de ses Unauthorized Stories, des biographies non autorisées.
Mazette.
On avait déjà eu droit aux coulisses de la série Sauvée par le Gong et à celle de La Fête à la Maison. On retrouve toujours la même formule, des acteurs inconnus au bataillon et très vaguement ressemblants, des décors passe-partout et des scénarios qui évoquent toutes les polémiques tout en évitant les procès. Alors ce diptyque Melrose Place, Beverly Hills, c'est clairement le plus réussi du lot, de vrais plaisirs coupables à l'image de ce qu'étaient ces séries.
Et pourtant, certains mettent la barre nettement plus haut.
Oui, c'est le cas du producteur et scénariste Ryan Murphy, le créateur de Nip Tuck. Il nous plonge dans le Hollywood des années 60 avec la première saison de Feud à découvrir à partir du 23 avril sur Canal Plus Série. Or, feud, ça signifie duel en anglais. Eh bien, c'est un véritable duel à fleurer pas du tout moucheté que l'on insiste entre deux légendes d'Hollywood, Betty Davis et John Crawford. Elles sont réunies sur le film Qu'est-il arrivé à Baby Jane? Et la série reconstitue avec luxe les coulisses de l'époque et n'élude pas du tout les bassesses auxquelles se sont livrées les deux actrices, notamment au moment des Oscars. De plus, dans cette série, elles sont incarnées par deux actrices tout aussi prestigieuses, Susan Sarandon et Jessica Lange. Une vraie différence.
Merci Romain.
L'Instant M, Bruno Donnet.
Orang-outan, tu sais ce que ça signifie?
Non.
L'homme des bois, en malaisien. Et les Allemands, eux, ils disent Menschenaffen. Menschen pour homme, Affen pour singe. L'homme singe.
Alors, Jamy Gourmaud, l'émission que vous présentez depuis maintenant 3 ans sur France 3 s'appelle Le Monde de Jamy. Celle de ce soir est consacrée à l'intelligence des animaux. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer ou démontrer avec ce programme ?
Alors, en fait, c'est presque le deuxième numéro d'une émission, d'un thème qu'on avait abordé l'an passé sur l'animal. On était plus sur le comportement de l'animal l'an passé, et quand on a terminé cette émission, on s'est dit c'est pas possible, on est loin d'avoir tout dit, bien évidemment. Et on avait envie de s'intéresser, quand je dis on, c'est la rédaction, c'est l'équipe qui fabrique cette émission, on avait vraiment envie de s'intéresser à l'intelligence animale. Le titre de l'émission, c'est « Des animaux si proches de nous ». Alors on pourrait dire, oui, des animaux qui nous ressemblent. Non, des animaux si proches de nous, parce que quand on dit des animaux qui nous ressemblent, automatiquement on fait de l'anthropomorphisme. Et l'idée, c'était de voir que, bien évidemment, les animaux qui nous entourent, qu'ils soient animaux de compagnie, animaux domestiques ou animaux sauvages, ces animaux ont une intelligence formidable. On les compare très souvent à la nôtre. En fait, ils ont des pans d'intelligence qui vont ressembler à ce dont on est capable. On dit souvent, tiens, tel animal a l'intelligence d'un enfant de 3, 4, 5 ans. En fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sur une tâche bien précise, cet animal va être en mesure de faire la même chose qu'un enfant de 3, 4, 5 ans. Mais sur cette tâche précise, pas sur l'ensemble. Donc on avait envie de, à la fois, mesurer, comprendre cette intelligence, et puis à la fois aussi, trier le vrai du faux. On voit en permanence des vidéos sur YouTube où on prête aux animaux des comportements, des facultés presque humaines. Voilà. Et on voulait faire le tri.
Alors, la méthode qui est la vôtre et que vous avez éprouvée, je le rappelais au début de cette émission, avec C'est pas sorcier, elle est simple. Elle consiste à faire des expériences et à remettre en cause, à challenger des vérités parfois un peu toutes faites. Et dans l'émission qu'on va voir ce soir, vous avez, entre autres, émis un doute sur la hiérarchie de l'intelligence des chiens en fonction de leur race.
Un classement de 110 races de chiens établi en 1994 par un universitaire américain est aujourd'hui encore cité en référence. Numéro 1 de l'intelligence, le Border Collie. Deuxième, le Caniche. En queue de classement, le Bulldog anglais, avant-dernier. Et Lanterne rouge, le lévrier afghan.
Jamy, y a-t-il vraiment des races de chiens qui sont plus couillons que les autres ?
Eh ben non. Alors, on révèle un petit peu l'issue du test qu'on a fait avec les animaux. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que y a un QI pour les chiens qui a été établi, des tests de QI.
Un palmarès.
Voilà. Alors effectivement, il y a un palmarès qui a été fait. Ce qui est très intéressant à l'issue de ce, parce que nous on a testé donc plusieurs chiens. Hein. Certains sont en tête de tableau, d'autres sont en queue. Je ne vous dis pas le résultat du test. Hein. Je vous laisserai le découvrir. La conclusion quand même, c'est que finalement, quand on fait ce test, eh bien, chez les chiens comme chez les hommes, eh bien, il y a un petit peu de
génétique,
de QI très haut, un petit peu de trépas,
de très bas. Parce que le trépas chez les chiens, c'est terrible.
Un peu de trépas et beaucoup de milieu.
Mais quelle est la méthode que vous avez utilisée ? Comment vous y êtes-vous pris pour sonder l'intelligence des chiens ?
Alors, ce sont des tests qui sont établis. On a travaillé là avec un vétérinaire psychiatre pour animaux qui s'appelle Claude Beata. On a reproduit ces tests. Je vous en cite un, par exemple. Il y a un test, ce qu'on appelle le test de la barrière, qui est un test que pratique tous les éthologues sur différentes espèces animales, hein, que ce soit le chien, le cochon, le cheval. Ce test de la barrière consiste à mettre une barrière en forme de V, et à l'intérieur du V, on met de la nourriture et on lâche l'animal. L'animal va aller vers sa nourriture, mais quand il arrive au niveau de la barrière, il ne peut pas y accéder. Donc, vous allez dire, c'est simple, il faut faire le tour. Ah oui, pour nous, c'est très simple. Mais quand vous vous mettez dans la tête de l'animal, et quand vous essayez de comprendre un petit peu tous les mécanismes cognitifs, c'est ça qui est intéressant. Pour atteindre cette cible, il faut que le cerveau de l'animal raisonne et se dise, attention, je dois m'éloigner de la cible pour atteindre mon objectif.
Me regardez pas comme ça, j'ai l'impression d'être en cours de sciences nat. Bon alors, dans le documentaire qu'on va voir ce soir, il y a un morceau de bravoure absolue, un excellent moment, c'est le passage que vous avez choisi de consacrer à l'intelligence des piafs et plus particulièrement des perroquets. Là encore, vous avez filmé des expériences et vous en avez fait une absolument incroyable avec un cacatoès aux prises avec un coffre-fort. On écoute.
Première fermeture ouverte.
S'il le fait pas dans le bon ordre, il peut pas réussir.
C'est là où c'est extrêmement complexe. Il faut comprendre finalement comment est fermé ce coffre.
Voilà, donc il faut enlever chaque serrure au fur et à mesure.
Il a compris que le problème venait de la roue.
Il est prêt.
Voilà, mission impossible accomplie, le coffre-fort est ouvert en moins d'une minute. Jamy, qu'est-ce qui vous a le plus bluffé dans ce que vous avez vu avec ces animaux-là?
Alors, l'intelligence, vous savez, on dit toujours, on parle d'une intelligence de piaf, d'une intelligence de moineau.
De moineau, oui.
Il s'avère que l'intelligence des perroquets, en l'occurrence, hein, nous sommes avec des cacatoès, est très surprenante. Parce qu'on se dit, on voit ce perroquet ouvrir un coffre. Il y a une combinaison, je vous promets, elle est très complexe. La combinaison, on se dit, il l'a appris. Quand bien même, la spécialiste, qui est une chercheuse autrichienne, nous dit, non, c'est la première fois qu'il le fait. Bon, je dis, on a un doute.
Vous en doutez.
Alors, on modifie la combinaison. On modifie la combinaison.
Vous changez des bâtons qui sont dans les roues.
On modifie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va laisser une partie de la combinaison déjà ouverte. Donc on se dit, si l'animal l'a appris par cœur, il va refaire
exactement
le même geste.
Pour voir s'il passe à l'étape suivante.
Exactement.
Ou pas.
Eh bien, le cacatoès regarde la situation, l'analyse, et très vite il comprend que c'est pas la peine de refaire la même chose que précédemment, et il ouvre.
Et là, vous êtes cuparterisé. Alors c'est votre matière, votre manière de vulgariser la science, de la rendre accessible à tous, qui vous a rendu célèbre. Qu'est-ce qui vous a donné envie à vous de vous intéresser à l'actualité scientifique? Est-ce que vous avez à la télé, par exemple, des modèles? Est-ce que vous avez biberonné à Michel Chevalet, à François de Clauset? C'est qui vos maîtres?
Alors, évidemment, je crois qu'on n'invente rien en télé. On est tous les héritiers de quelque chose. Quand on a créé C'est pas sorcier avec Frédéric Courant, évidemment, il y a une part de création. Mais tout cela, nous n'avons pu le faire que parce que précédemment, il y avait eu Jérôme Bonaldi, qu'il y avait eu Michel Chevalet, qu'il y avait eu François de Clauset. Et quand bien même, moi quand j'étais enfant, je regardais François de Clauset ou Michel Chevalet, j'ignorais que des années plus tard, je ferais une émission scientifique. Mais quelque part, leur façon d'expliquer, leur façon de dire les choses, se sont imprimées et ont germé. Et il en sort quelque chose.
Voilà, alors ce qu'on entend derrière nous, c'est le générique du magazine que vous avez animé pendant 10 saisons sur France 3.
Et 19
19
19 ans.
Bon bref. Et qui est, oui, il manquait une queue à mon zéro. Et qui est devenu absolument culte avec vous, Jamy Gombeau. Alors, vous avez la nostalgie de cette émission?
Pas du tout. Pas du tout. Quand on fait une émission qui dure 19 ans, déjà, c'est 19 ans, c'est bien. Quand elle s'arrête, évidemment, personne n'est content quand une émission s'arrête. Mais bon, une émission, c'est aussi fait pour vivre et pour mourir. Donc l'émission s'est arrêtée, elle a duré 19 ans. On tourne la page, on fait autre chose. Voilà. Je suis très très content, j'ai passé des moments super, j'ai appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui j'ai tourné la page, je fais autre chose avec le monde de Jamy, avec comme une envie de jardin, émission sur la botanique et les jardins. Voilà, c'est autre chose.
Alors dans C'est pas sorcier, vous expliquiez des tas de trucs, des tas de phénomènes, et c'était tellement bien fichu qu'aujourd'hui encore, il y a des extraits de votre émission qui sont diffusés dans les écoles, dans les cours, les profs s'en remettent à vous pour expliquer, par exemple, comment ça fonctionne le son.
Quand ce haut-parleur émet un son, la membrane vibre. Eh bien, c'est le point de départ. Cette vibration fait vibrer l'air avoisinant. Concrètement, les molécules qui composent l'air subissent une surpression avant de se détendre. En fait, elles se poussent les unes les autres et ce mouvement se transmet de proche en proche. C'est lui, par exemple, qui va faire vibrer cette membrane. Et sauter les graineries, c'est également cette vibration qui fait vibrer la membrane que nous avons dans le creux de l'oreille, le tympan.
Voilà, sous mes yeux ébahis, Jamy vient de rajeunir de 10 ans. Être vu dans les écoles, être devenu la coqueluche des cours de récré, c'est quelque chose qui vous touche ?
Ça, c'est extraordinaire ce qu'on vient d'entendre, parce que les auditeurs viennent de comprendre finalement comment fonctionnait, ce qui se passait au moment où on leur parle.
Comment nos voix arrivent jusqu'à leurs oreilles.
Exactement, exactement. Ça me touche, évidemment, ça fait toujours plaisir de savoir que des enfants, de jeunes adultes, des adultes utilisent finalement votre production pour se cultiver. Parce que je considère, en fait, qu'est-ce qui me fait moi avancer, c'est que je considère que la science fait partie de notre culture à part entière. Vous savez, dès lors qu'on parle de culture, on se dit « Ah, il y a le cinéma, la photo, la littérature, le théâtre, la poésie. » Et puis à côté, il y a la culture scientifique. Et moi, je considère que la science fait partie de notre culture. Et qu'on n'a pas besoin d'être scientifique pour s'intéresser à la science.
Alors, Jamy, vous me disiez juste avant qu'on prenne l'antenne que non seulement vous étiez vu dans les écoles, mais qu'il y avait plusieurs échelles. Vous êtes vu dans les écoles primaires, on s'y attendait, enfin moi je le savais, dans les collèges aussi, au lycée, mais même plus haut.
Absolument, certaines de nos émissions sont utilisées. Alors, pourquoi elles sont utilisées au collège, au lycée ? À la fac, je crois que même l'émission que nous avions faite sur la TNT a été utilisée par nos parlementaires pour comprendre un petit peu comment fonctionnait la télévision numérique. Voilà. Mmh. À l'époque où ces débats étaient, c'était le sujet de débats parlementaires.
Mmh. Alors, on en a dit un mot quand même tout à l'heure rapidement. Je suis obligé de vous poser la question. Comment est-ce que vous avez digéré l'arrêt un peu brutal de ces pas sorciers ? Vous en êtes où là dans vos rapports avec France 3 ?
Bah écoutez, c'est une histoire qui date de 4 ans, qui est parfaitement digérée. Aujourd'hui, je présente cette émission qui s'appelle donc Le Monde de Jamy. Ce sont des documentaires.
Alors là,
de
c'est
deux
comment
heures.
Ça marche la langue de bois.
Voilà. Non, pas du tout, pas du tout. Je peux vous dire que je m'entends très bien avec l'équipe de France 3, avec Patrick Charles, Dana Astier, et je crois que ce programme. On l'a bâti ensemble, de même que l'autre programme, tout à l'heure je vous en ai dit un mot, le Comme une envie de jardin, c'est vraiment des programmes que l'on a bâti ensemble et ce n'est absolument pas de la langue de bois.
Alors Jamy, je peux pas vous laisser quitter ce studio sans vous faire répondre à une petite question que j'aurais pas eu l'idée de vous poser si j'avais pas lu le papier de Michel Besbach qui a écrit dans Télérama à propos de votre émission de ce soir qu'il a vu. Il l'a vu, il a regardé, il estime que la journaliste qui vous accompagne, elle s'appelle Myriam Bounafa, qui joue le rôle de Candide, est un faire-valoir, que c'est vous qui avez toujours le beau rôle. Bref, il dit en somme que dans votre émission, les filles passent un peu pour des tartes. Jamy Gourriot, est-ce que vous êtes un misogyne qui s'ignore ?
Ben, j'espère que non. Voilà, j'ai toujours, il faut avoir le doute, mais j'espère que non, je pense que non. Pour qu'une émission fonctionne, les émissions scientifiques, les ouvrages de science ont très souvent fonctionné sur le dialogue. Une question, une réponse. Alors, si, dès lors que la question est posée par une femme, eh bien, c'est misogyne, là, j'ai un peu de mal à comprendre. Et puis, Myriam aussi apporte beaucoup d'informations dans cette émission.
Allez, ce sera le mot de la fin. On vous retrouve donc ce soir sur France 3 à 20h55. Bonjour Thomas Chauvineau.
Bonjour Bruno Donnet.
Au programme de Grand Bien vous fasse après 10h.
Comment parler politique aux enfants sans pour autant leur imposer nos choix ? On attend vos réactions et vos recettes, vos méthodes, surtout 01 45 24 7000 et Grand Bien vous fasse @radiofrance.com.
Après les infos.